Alors, moi, en effet, j'ai décidé de poser la question de manière un petit peu provocatrice, hein, des coups de poing fraternels, en essayant d'insister sur la dimension paradoxale de l'expression. Et je vais prendre, pour répondre à ces questions, l'exemple d'une manifestation lydico-militaire toute particulière à mon espace et à ma période d'études, donc le phénomène des batalioles qu'on va définir ensemble. Alors, tu verras demain les beaux yeux au beurre noir et les visages pâles, et c'est beaucoup, et tant de mains et de bras au col, et combien de dents en moins, et autant d'hématomes. Et encore, je ne parle pas des côtes démises, des flancs douloureux, ni des épaules fracturées qui se feront sentir pour un certain temps. Vois-tu, c'est comme cela, c'est ainsi que l'on gagne à ce jeu. Alors, pourquoi j'ai décidé de produire cet extrait du pseudo Gentile Sermini qui décrit une de ces manifestations, une de ces batalioles dont il est témoin à la fin du XIVe siècle à Sienne? C'est parce que cet extrait pose explicitement la question du rapport entre jeu et violence. En effet, pour un observateur du XXIe siècle comme nous, c'est un peu difficile de voir dans cette liste de blessures un simple comptage de points en fin de partie de jeu. On a bien du mal à se dire que cette énumération de coups et blessures est due à un jeu. Et pourtant, si, c'est ce qu'il me faut dire dès l'introduction, il faut appuyer sur le fait que le caractère fondamentalement et intrinsèquement ludique de ces manifestations n'a jamais été remis en cause, aussi bien par les joueurs contemporains que par les spécialistes depuis. Alors, avant de définir ce phénomène de façon un peu plus exhaustive avec vous, il faut dire deux mots du contexte. Autrement dit, répondre à la question pourquoi les villes, pourquoi l'espace toscan et pourquoi l'époque tardo-médiévale. Parce que cet ensemble forme un laboratoire d'observation privilégié pour notre objet d'étude. Et là, je vais être obligée d'être très grossière et je m'en excuse auprès de mes enseignants. Il va falloir grossir le trait parce qu'on aurait 10 heures à faire là-dessus. La singularité du modèle toscan, il est dû évidemment à la prégnance du modèle communal en Italie à cette époque. Donc pour faire très rapidement, hein, les villes de l'Italie centrale et septentrionale à cette époque sont prises dans la tourmente de ce que l'historiographie a consacré sous l'expression de la lutte du sacerdoce et de l'empire, hein, la guerre presque incessante entre les deux grands pouvoirs à vocation universaliste du temps que sont le pape d'un côté et l'empereur de l'autre. Et cette guerre exacerbe par ailleurs une course à la domination territoriale dans laquelle se jettent allègrement les villes de la Toscane. Alors pourquoi il faut avoir ce contexte en tête? C'est parce que la violence ludique qu'on va aborder aujourd'hui est une clé de compréhension de cette singularité communale et permet de comprendre la vie urbaine. Et inversement, ce contexte politique a aussi une influence directe sur les phénomènes qu'on affronte aujourd'hui. Alors la période non plus n'a pas été choisie au hasard, hein. On a affaire à un tournant, c'est un peu ce que nous dit Gerardo Ortaldi quand il parle d'une nouvelle page qui se tourne pour le jeu. On procède progressivement à sa réhabilitation. Et puis, les historiens notent une intensification de l'activité ludique, c'est ce qui est peut-être l'aspect le plus important. Et c'est ce que Jean-Claude Mervilleur a beaucoup travaillé à propos de Pérouse. Alors maintenant, c'est l'heure de définir plus exhaustivement le phénomène, un bataliole. Et alors, littéralement, on pourrait le traduire comme « petite bataille ». En réalité, la traduction ne satisfait pas trop, c'est pour ça que je vais garder le terme italien pendant tout l'exposé. Alors, je vais le définir comme un ensemble de jeux militaires au caractère hautement agonistique, plus ou moins simulé, décliné en quantité de variantes locales. Alors, quelle que soit la variante à laquelle on aura affaire, le but est toujours le même. Les joueurs, et d'ailleurs c'est assez simple, hein, les joueurs sont divisés en deux équipes et il s'agit de pousser l'adversaire à se retirer pour conquérir, gagner du terrain et le conquérir au profit de sa propre équipe évidemment. Alors on va voir que c'est les moyens qui changent selon les villes et que les villes vont se distinguer par les armes qu'elles choisissent. Alors le succès de ces manifestations a toujours suscité l'intérêt des contemporains dès l'époque où elles ont cours et puis des historiens ensuite. Je vais passer très très rapidement sur l'historiographie, résumer très grossièrement là encore, en disant que une historiographie ancienne avait tendance à lire ces manifestations comme des entraînements militaires destinés aux milices communales dans le contexte troublé que j'ai évoqué en introduction et en l'absence pour les villes d'armées permanentes. Alors aujourd'hui, ces batalioles font l'objet d'une relecture un peu plus sociologique hein, dans le sillage des travaux qu'on a déjà cités du Zinga, Kaiwa, etc. Pour dépasser cette vision réductrice et puis surtout ce qui va nous intéresser ici, donner un nouveau sens à l'expression de la violence dans le cadre particulier de ces batalioles. Et là, on pense aux travaux récents d'Aldo Se, Tiaduccio Balestracci, etc. Alors du coup, tout l'enjeu de cette communication, ça va être pour moi d'illustrer ce changement de paradigme dans la recherche en questionnant les rapports entre jeu, violence, espace et communauté urbaine. Ce que je vous propose de faire dans ces termes. Dans quelle mesure la violence ritualisée dans le cadre ludique, régulièrement manifestée à l'occasion de fêtes civiques, participe-t-elle à la construction de l'identité urbaine et à l'édification d'une conscience communautaire dans les villes de la Toscane communale ? Alors, je vais procéder par niveau de lecture, je dirais, du plus explicite au plus implicite, en commençant par expliquer que c'est le lien entre les batailleurs et l'espace communal qui fondent ces prétentions au jeu à devenir un marqueur identitaire. Ensuite, on verra que la violence ludique dans ce cadre s'impose comme un mass-médium, et puis qui dit mass-médium, finalement, dit presque de facto qu'il sera codifié, instrumentalisé, en tout cas utilisé par les autorités. Alors, dans un premier temps, Batailleul et Commune, anatomie d'un lien consubstantiel, là, il s'agira pour moi de circonscrire le phénomène dans son espace-temps très spécifique. Et là, je vous propose de passer très rapidement, si je veux tenir mon temps, parce que la bibliographie est très importante sur ce sujet, et puis pour me laisser un peu le temps plutôt de développer peut-être l'aspect violence canalisée qui nous occupe particulièrement dans cette session. Alors, très rapidement, un mot de l'espace. Ce qui est intéressant dans cette période, c'est qu'elle voit la fixation progressive et l'installation finalement définitive en fin de période du phénomène des batailleurs au sein de l'espace urbain, au cœur névralgique de l'espace urbain qui est la place communale. En effet, avant le XIIIe siècle, on avait tendance à jouer forimura. Forimura, c'est-à-dire en dehors de l'espace sain du centre urbain, donc en dehors des murailles. Par exemple, à Luc, on jouait au Prato San Donato, qui était un champ ouvert, et qui avait l'avantage pour ce jeu, évidemment, qui est très consommateur d'espace, de n'imposer aucune limite. Alors, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre cette évolution, hein, pourquoi on a rapatrié ces jeux qui sont très demandeurs d'espace en plein centre de l'espace sain, ce qui comporte bien d'autres désavantages. Pour comprendre cette évolution, il faut revenir à la composition des équipes, qui se fait sur critères géographiques. Si on regarde mon tableau, très rapidement, à Pérouse, on voit qu'il y a une partition nord-sud de la ville. À Pise, on a une partition est-ouest. Et puis à Sienne, on se base sur la division administrative des tiersiers. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce recrutement finalement des joueurs, il transcende largement les catégories sociales. Et c'est ce qui fait le premier facteur de l'identité du jeu, parce que le jeu est largement exclusif vis-à-vis des non-urbains, d'une part, et puis des étrangers, évidemment, ensuite. Alors, ce qu'il faut dire de la place communale, hein, c'est qu'elle est investie d'une symbolique très forte. Là, je n'ai pas résisté à vous produire l'exemple de la Piazza del Campo à Sienne, où avait lieu la Batailleola hier, si je peux dire, et puis où a lieu le Palio aujourd'hui, qui fait sa réputation. Donc, cette place, elle est investie d'une symbolique très forte. Hein, l'autorité de la commune, elle y est ancrée spatialement, elle est incarnée architecturalement par le palais, qui domine et qui protège la manifestation. C'est tout un art. Donc là, j'ai produit l'exemple de Sienne. En réalité, dans toutes les villes, l'exemple serait similaire. Alors, le temps, très rapidement, là encore, il y a le calendrier des batailleurs obéit à toute une superposition de calendriers différents. Là encore, je m'arrête plutôt sur l'aspect identitaire, donc sur le calendrier de la célébration communale. Si on regarde une nouvelle fois mon tableau, on remarque que la commune utilise largement les batailleurs pour célébrer les grands temps de son histoire. On voit qu'à Pérouse, on fête le Saint-Patron. Alors ça, c'est très souvent le cas, c'est pas qu'à Pérouse. On fête aussi les victoires, on commémore les événements fondateurs. Et donc là, on comprend bien la dimension identitaire que revêt le jeu. Alors si je descends d'échelle dans mes calendriers, à l'échelle humaine, apparaissent dans les sources, et de manière assez importante, des sanctions différenciées, par exemple à Sienne, pour les mineurs de 15 ans. Ce qui prouve bien, finalement, en négatif, une participation juvénile à ces jeux. Alors là encore, je passe rapidement parce que ça a été très bien étudié, notamment par Ilaria Taddei pour l'exemple de Florence, qui a souligné la dimension sacrée de la violence des pueries. Juste rappeler qu'il faut lire dans cette participation juvénile, qu'il faut la lire à la manière de Van Gennep, c'est-à-dire comme autant de rites de passage à l'âge décisionnel, l'entrée finalement dans la communauté civique. Donc là, l'objet de la première partie, c'est de souligner les symboliques des temporalités et des spatialités qui fondent véritablement le caractère étant identitaire du jeu. Alors là, on va s'arrêter un petit peu plus longuement sur la violence ludique, un mass medium. Là, l'objet de cette partie, c'était de décrypter un petit peu l'universalité d'un langage qui est partagé par tous les joueurs. Et là, je reviens à la notion de contrat ludique qui a été développée par M. Wenning hier. Un langage commun, mais qui est tacite, d'où l'intérêt et d'où toute l'importance pour les historiens de le décrypter. Alors, première sous-partie, les batailleurs, les contre-hôtels des tournois aristocratiques. Et là, il faut mettre en question l'expression de William Heywood. Alors, en effet, longtemps, on a lu les batailleurs comme simple et vulgaire et violente imitation de jeux aristocratiques. Alors, pourquoi on a eu cette lecture? Là encore, il suffit de regarder mon tableau. Parce qu'à Pérouse, on se lance des cailloux. À Pise, à Florence, à Sienne, on joue en armes légères. Et puis à Sienne, à partir de 1291, on passe seulement au point. Donc, on va détailler l'exemple après. Et puis, ne figure pas dans mon tableau, parce que je n'ai pas pu en faire une généralité dans la mesure où je n'ai trouvé qu'une seule mention, mais c'est mon préféré, donc je vous le livre. À Bologne, on se lance des chats morts et autres détritus dont je vous fais grâce de la nature. Donc, finalement, cette lecture, elle s'explique assez bien. Hein, la participation à ces jeux ne nécessite pas de prérequis financiers, puisque le matériel ludique est carrément absent dans les configurations les plus célèbres, que sont les sasaïoles, donc les batailles de cailloux, et puis dans les pugnes assiennoises, où on ne se sert que des points. Et puis à Bologne, quand on est fanatique de la collection de cadavres de chats. Donc. Alors, en réalité, cette vision, elle est un petit peu réductrice. Hein, la relecture attentive des sources prouve à quel point ce préconçu est réducteur. Si on reprend le pseudo Gentile Sermini que j'ai présenté en introduction, il est conduit à un moment dans son récit à décrire les vêtements des joueurs. Et là apparaissent de façon très importante des étoffes raffinées. Ce qui dit, là encore, hein, la présence en négatif d'aristocrates et de grands aristocrates souvent. Et à l'autre bout du spectre, il y a aussi des joueurs sans chemise qui ont des vêtements troués, etc. Donc qu'est-ce qu'on lit de cette participation? Que finalement, participer à la batailleria de sa ville, c'est affirmer son intégration dans la communauté urbaine. D'où ma question par rapport à l'affirmation de William Ewood, hein, qui est seulement partiellement vrai. C'est vrai que les plus pauvres n'ont pas les moyens de participer aux jeux équestres, mais rien ne prouve que les batailleurs aient été la traduction de leur aspiration à le faire. Et puis, il faut encore souligner cette participation massive des aristocrates qui, pour le coup, ne boudent pas leur plaisir à se mêler aux catégories les plus humbles. Alors, dans un second temps, hein, réunir pour mieux régner, pour une grammaire de la violence ludique, là, l'idée, c'était un peu de faire l'exégèse de ce langage tacite. Parce que on remarque, quand on s'intéresse à ces phénomènes, que les batailleurs envoient toute une série de messages qui changent de sens selon le destinataire. Et donc là, c'est très intéressant, on a plusieurs niveaux de discours, et donc plusieurs niveaux de lecture pour les historiens. Alors, là encore, à très gros traits, je suis obligée de le faire à très gros traits pour tenir mon temps, j'ai individualisé trois grandes catégories de messages envoyés par les batailleurs. Première grande catégorie, les messages qui sont envoyés aux ennemis extérieurs de la ville. Donc là, on est toujours dans le contexte politique troublé et complexe dont j'ai parlé en introduction. Parce qu'on joue souvent au bataillon et quand on reçoit la visite d'un haut dignitaire étranger. Et alors là, le message est clair, finalement. C'est l'occasion pour la commune de faire montre de la puissance et de la cohésion du groupe. Et l'observateur étranger devra juger des forces humaines, des capacités militaires, somme toute information qu'il ne manquera pas de retourner à sa ville natale ou dans sa ville d'office. Autant d'éléments qui joueront un rôle important dans ce contexte de guerre, finalement, parce qu'ils pourront déclencher la décision d'une attaque ou, au contraire, d'une non-attaque. Alors, deuxième grande catégorie de messages, peut-être un peu moins évident cette fois, des messages qui sont envoyés en termes d'avertissement à des ennemis intérieurs. Alors, toujours dans ce contexte compliqué, hein, je vous ai dit que les villes se livraient des guerres incessantes entre elles, en plus d'être prises dans la tourmente de guerres qui les dépassent. Les villes italiennes sont donc largement en proie au péril factieux. Et les citadins craignent très souvent, c'est très prégnant dans la documentation, pour le bien commun. Le bien commun, c'est un principe cardinal qui guide le gouvernement communal. Et donc, les batailleurs, finalement, s'imposent comme autant d'avertissements par la communauté, à la communauté, c'est-à-dire aux membres de la communauté, qui oseraient s'en prendre au bien commun et confisquer ce bien commun. Alors, à un niveau peut-être encore plus subtil, le niveau infracommunautaire, les messages que s'envoient les joueurs aux joueurs, les batailleurs les s'imposent aussi comme un exutoire aux difficultés du temps. Et là, on pense aux guerres, aux épidémies, et on dépasse peut-être sur la session prochaine. Alors, il y a un exemple qui est un petit peu postérieur à la période que j'ai bornée, mais en réalité qui est très parlant. c'est l'exemple du siège de Sienne en 1554-55. Alors c'est un exemple qui est intéressant, notamment parce qu'il est rapporté par un militaire français, Blaise de Montluc, qui est envoyé dans la ville pour défendre Sienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Blaise de Montluc nous raconte, au plus fort de l'assaut, donc la ville est prise par les Espagnols, et au plus fort de l'assaut, les Espagnols se lancent sur la ville, et donc les Sinois se rassemblent, et là, Blaise de Montluc se dit, ils vont attaquer les Espagnols, coup de Trafalgar, ils se mettent à se taper dessus entre eux. Alors là, Blaise de Montluc est sidéré, et pour lui répondre, les Sinois lui répondent, mais... Ne soyez pas étonnés. Imaginez ce qu'on sera capable de faire à nos ennemis si on est capable de se faire ça entre nous qui sommes frères. Et là, le terme est intéressant, hein, le terme frère. Là, on comprend que finalement, la bataille, là, c'est pour les joueurs un moyen de se rassurer sur les capacités à faire front ensemble à la difficulté, sur la vitalité du groupe et sur sa fraternité. Et la fraternité, c'est intéressant dans la mesure où ça boucle quelque part la boucle que j'avais ouverte en introduction. Alors, dernière partie maintenant. Donc, je rappelle que c'était masse médium. Hein, masse médium codifiée et instrumentalisée par les autorités. Première réaction des communes, hein, du gouvernement communal, c'est de canaliser cette violence ludique. Alors, pourquoi canaliser cette violence ludique? Parce qu'on l'a dit déjà à propos de plusieurs jeux. Hein, quand il s'agit de jeux hautement agonistiques, on a très souvent, malheureusement, des débordements. On le comprend bien, et puis je vais pas revenir là-dessus, ça a été dit plusieurs fois dans le colloque. Au cours des bataillons, on compte souvent des blessés, et un peu moins souvent des morts, mais ça arrive. Débordements, donc, qui réclament l'intervention de la commune, qui va légiférer sur le jeu. Alors, dans un premier temps, elle tente de canaliser cette violence ludique. Alors, ce qui l'a fait agir en fait en premier, c'est parce que la commune craint largement le pouvoir de coalition du jeu. Très souvent dans la documentation, hein, avant de nous expliquer pourquoi la commune va prohiber la bataille, là on a des mentions de type « en ce jour, l'État a manqué se renverser ». Donc là on a bien une crainte de l'atteinte à l'ordre public. En réalité, on va voir que le pouvoir subversif, hein, qui est à ce point craint par les autorités, il est un petit peu exagéré, on va voir pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que le gouvernement a bien saisi le pouvoir de coalition du jeu. Donc dans un premier temps, on assiste à une multiplication des dispositions pour prohiber le jeu. Finalement, qui dit multiplication dit un peu que ces interdictions restent lettre morte, c'est-à-dire que plus on interdit... Plus on comprend bien en négatif que les interdictions précédentes n'avaient pas été respectées. Donc on est face à une incapacité chronique des communes à endiguer le phénomène. Alors ce qui fait agir aussi la commune, c'est le souci de préserver, toujours dans ce contexte troublé, un nombre de citoyens valides et mobilisables pour la guerre en tout temps, d'où les tentatives pour limiter les dégâts et les conséquences accidentelles des batailles. Et là, on prend l'exemple de Sienne en 1291. Hein, je vous ai dit que avant cette date, on jouait à l'Elmora, qui était une variante en armes légères. Et en 1291, les magistrats décomptent une dizaine de morts et autant et bien plus de blessés. À partir de là, le gouvernement décide de prohiber les armes purement et simplement et décide non pas d'interdire la bataillola, mais d'interdire l'usage des armes. Donc c'est-à-dire qu'elle se poursuivra, mais uniquement à Manu. Alors, là, il faudrait revenir là-dessus, parce qu'il y a une lecture bien plus... Il y a un niveau de lecture à atteindre plus subtilement. En réalité, l'intervention de la commune, la commune est dans son rôle, hein, d'intervenir dans ce débordement. En réalité, pourtant, cette intervention, elle est presque inutile, en vertu, justement, du contrat ludique, dont on a longuement parlé, notamment avec M. Manu. En effet, il y a un accord tacite entre les joueurs sur un seuil de violence, entre guillemets, qui est fixé à la mort des participants ou des civils, hein, en termes de dommages collatéraux. Seuil de violence à ne pas dépasser. Et si la limite est franchie, les joueurs eux-mêmes et les spectateurs eux-mêmes boudent le spectacle, boudent le jeu. Et donc là, ça signe la mort de la manifestation. Donc finalement, on peut dire que cette intervention... gouvernementale, elle est presque inutile, parce que les joueurs eux-mêmes se seraient auto-régulés. C'est l'hypothèse qu'on peut poser. Alors ça me permet de revenir sur un point important, hein, de cette violence canalisée. la violence dans tout ce qu'elle a d'agressif et de gratuit, hein, c'est souvent peut-être à tort, enfin certainement à tort d'ailleurs la définition qu'on lui donne. Cette violence agressive et gratuite, elle est absente des règles du jeu de la bataille violente en réalité. C'est toujours un moyen, la violence, et jamais la fin du jeu. C'est la manifestation du caractère agonistique. Pour le coup, la violence, dans les termes que l'on entend, elle peut apparaître quand les décisions de la commune contredisent ces règles tacites. Alors là, j'aurai plusieurs exemples. Je vous donne, pour aller plus rapidement, mon préféré. Des exemples siennois, en 1324, San Auditorio, qui joue au pugna et qui voit l'évêque intervenir pour essayer de les calmer. Et mécontent de l'intervention de l'évêque, il met tout simplement feu à la première église qu'il rencontre. Alors là, on pourrait s'interroger, c'est-à-dire pourquoi mettre le feu alors que finalement l'évêque a tenté de limiter les dégâts pour les joueurs eux-mêmes. Et bien en fait, s'étonner de cette intervention, ce serait commettre une erreur de lecture. Parce que finalement, restreindre les risques qui ont été pris en tout état de cause par les joueurs, en vertu de ce contrat ludique, même s'il est tacite, c'est tricher dans le meilleur des cas, c'est vider de son sens la manifestation ludique dans le pire des cas. Et là, c'est très grave pour les joueurs, parce qu'on est face à une rupture de l'illusion, ce qui tient à cœur pour les sociologues, hein, c'est important, dans la lecture de Caillois et Huizinga, et donc on vide complètement la manifestation ludique de son sens. D'où ces réactions, pour le coup, violentes. Alors, très rapidement, hein, le fait que la commune prend acte de son incapacité chronique à interdire le jeu, elle change donc de stratégie et elle essaie d'en profiter. Alors, progressivement, on assiste à une baisse de la prohibition systématique de ces batailloles et on assiste à des stratégies de contournement. On essaie de contrôler la violence ludique de façon un peu plus subtile. Alors, en réalité, pour aller plus rapidement, si la commune a été incapable pendant toute la période d'interdire ces manifestations, on a souvent imputé ça au goût incurable des joueurs qui étaient dits violents. En réalité, il y a un réel manque de volonté de la commune. C'est-à-dire que, en fin de période, on a l'impression qu'elle affiche une sévérité de façade, mais qu'en réalité, il y a une tolérance de fait qui s'applique. On commence à fermer les yeux sur les joueurs de bataillol et les magistrats sont de plus en plus tolérants. Finalement, le conflit entre les joueurs et les autorités, il s'estompe quand la commune commence à comprendre et à s'approprier le langage du jeu et qu'elle prend conscience de son intérêt à les laisser courir. Alors, deux grandes catégories d'avantages pour la commune. Hein, la bataillole a un rôle d'évacuation des tensions accumulées en un temps et un espace donné et contrôlé par la commune, parce qu'il y a des avantages de police particuliers. Et puis surtout, la bataillole évite l'effet ultérieur, ce que craignent aussi largement les autorités. Donc finalement, pour les autorités, la bataillole, c'est un moyen de se prémunir quelque part du péril factieux que j'avais décrit en introduction. Deuxième grande catégorie, et dernière, le renouvellement du consensus social autour de l'institution communale. Pour les nouveaux citoyens, c'est un moyen de prendre conscience des hiérarchies sociales en place. Les anciens réaffirment leur place au sein de la communauté urbaine. Et c'est ce que Richard Trexler a magistralement résumé sous l'expression « bonding process », qui sera utile à la ville quand elle aura besoin de mobiliser ses forces. Alors pour conclure, hein, ma lecture finalement, elle est cardinalement opposée au mythe de la subversion sociale qui a longtemps été attaché au bataillolais. Au contraire, ce phénomène s'impose comme un peu un outil de renforcement de l'ordre social en place. Alors, la commune réussit, après plus d'un siècle et demi d'hésitations, d'échecs, de discussions et de retours en arrière, à se rendre maîtresse du jeu des batailloles quand elle prend conscience des bienfaits, des pouvoirs et de la nécessité du jeu. Prise de conscience qui est l'aboutissement d'un processus lent, hein, qui finit de consacrer la valeur identitaire des batailloles. Elles entrent ainsi dans le rituel civique, hein, c'est un grand champ nouvellement ouvert dans l'historiographie italienne, qui est très important, cette analyse du rituel civique, de sorte que les batailloles n'ont plus grand-chose, presque, en fin d'analyse, d'un jeu au sens futile qu'on a erronément donné au terme, et encore moins violent. De façon un peu provocatrice, hein, on pourrait dire qu'on ne joue pas tellement aux batailloles, et en fin de période, on les célèbre, en fait. Et avec elles, on célèbre, évidemment, la commune. Preuve ultime du caractère identitaire et ritualisé des bataglios, les mêmes croyances populaires d'un malheur à venir si la communauté venait à arrêter de célébrer les bataglios. Et là, on prend l'exemple de Girolamo Gigli, qui est un érudit du XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, il peut encore dire à Sienne, « Guai a te Sienne, a quando non farai più alle pugna », donc « Gare à toi Sienne, quand tu ne joueras plus au point ». XVIIIe siècle, hein, on est donc très récemment par rapport aux choses que je décris. Et puis pour terminer, parce que son témoignage est unique, encore une fois le pseudo Gentile Sermini, qui nous dit, qui fait parler deux vieux monsieur qui sont spectateurs de la manifestation et qui ont été joueurs à leur tour. Oh, c'est la tradition, c'est vrai, elle est mauvaise, c'est comme cela que nous faisions lorsque nous étions plus jeunes, laisse donc faire que le sang bouille, nous voulons qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Donc là, ce qui est intéressant dans le propos, c'est que l'orateur hiérarchise sans hésiter et considère que la valeur identitaire du jeu vaut largement de risquer l'enfer que les prédicateurs promettent pourtant sans cesse aux participants. Et je vous remercie.